on va dire, des difficultés. Heureusement, les personnes parlent de solutions. On leur a demandé, par exemple, est-ce que vous sentez une évolution sur la problématique de la rémunération aujourd'hui dans l'entreprise? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont plus présentes aujourd'hui qu'il y a quelques années? Donc, il y a des avis assez différents sur la façon dont la REM intervient en France. Mais en tout cas, il y a une créativité. Nathalie parlait de créativité, c'est des solutions vraiment créatives. C'est-à-dire, on a une personne qui dit, mais même dans le public aujourd'hui, enfin, on a eu le cas il n'y a pas longtemps, donc c'était un peu précurseur, on commence à introduire les notions de rémunération mérite. Donc on commence à prendre des systèmes qui avaient tout à fait leur. Qui étaient en vogue dans le privé, on le met dans le public sans que ça fasse de vagues, ou en tout cas, on est en train de mettre en place des systèmes sophistiqués. Aujourd'hui, on a une approche qui est innovante sur les leviers clés de motivation, le fait on travaille sur comment fidéliser, comment motiver les équipes, et du coup, on a des tels dispositifs en France qu'on va avoir, on va aller chercher dans différentes palettes, comme les CESU, d'autres choses comme les conciergeries d'entreprise, tout ce qui va toucher au bien-être du salarié, qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus uniquement dans la rémunération, mais vraiment dans la rétribution, c'est-à-dire qu'on va chercher des éléments qui permettent de fidéliser le salarié. Donc là, et on sent, enfin, il y a beaucoup d'entreprises, de personnes qui ont témoigné sur le sujet, qui essayent autant que faire se peut, d'une part parce qu'elles n'ont pas un budget qui est extensible, mais d'aller chercher ailleurs que dans les solutions de rémunération, même de rémunération globale. C'est-à-dire, on n'est plus uniquement dans les bénéfices, on est dans le bien-être du salarié. On essaye de trouver ce qui peut fidéliser le salarié. Et là, on sent une vraie créativité. Alors, c'est aussi bien des compagnies ou des RH. Alors, il y en a qui essayent de jouer sur le temps de travail, sur différents avantages. Je pense à une société qui a travaillé beaucoup sur les voitures des commerciaux, en disant que ce n'est pas forcément le montant qu'on va louer à la voiture, mais le type de voiture qui va permettre de fidéliser, le fait qu'ils puissent choisir, le fait qu'on leur accorde de l'importance. Donc il y a un travail vraiment sur le sujet. Et on sent que, comme aujourd'hui, les budgets ne sont pas extensibles, on est plutôt en train de restreindre tout ce qui tourne autour de la masse salariale, les compagnies même, voire les RH, essaient de faire preuve de créativité, d'autant plus qu'en France, on a des systèmes qui permettent quand même beaucoup de solutions. Alors, je ne sais pas si c'est le cas chez toi, si
Ben,
tu peux
si.
faire un peu
Ben,
de.
il est certain qu'en France, alors, si on veut créer, si on veut. S'il y a bien un secteur où on peut être créatif, c'est tout ce qui touche à la rétribution. Mais pourquoi? Parce qu'on a un système de cotisation sociale qui est tel qu'il a bien fallu essayer de développer des systèmes parallèles pour rétribuer les gens. Sans se faire plomber par les charges sociales. Toute la difficulté, alors ça c'est super parce qu'il y a vraiment de quoi s'éclater, c'est vrai, sur le marché aujourd'hui, entre les PE, les PERCO, etc. Toute la difficulté, c'est parvenir ensuite à l'expliquer aux actionnaires suédois ou américains de l'intérêt de mettre en place un accord d'intéressement qui ne s'appelle pas un profit sharing, même si c'est quelque part un petit peu le même genre de système. Donc c'est toute la difficulté parce que. Nous, bien entendu, on est dans notre coquille. En règle générale, c'est des choses qu'on maîtrise assez bien. Mais pour l'expliquer à l'extérieur, pour le vivre au quotidien, c'est quand même assez complexe. Mais c'est vrai que je pense qu'en France, demain, ce qui fera la différence, c'est la capacité qu'on aura dans la motivation, les vecteurs de motivation, à utiliser tout ce panel qui s'offre à nous, hein. Et à jouer avec, parce qu'il y a tellement de moyens d'incentiver finalement les équipes avec les outils dont on dispose, qu'il y a quand même matière. Après, voilà, il faut arriver à l'expliquer, à convaincre. Voilà, ça.
Donc on sent qu'aujourd'hui, justement, alors qu'on a déjà une palette, on va dire, très étendue, les compagnies ou les RH vont chercher ailleurs que dans cette palette on va dire, de produits standards pour essayer à la fois de s'adapter à la culture de l'entreprise, de s'adapter à l'individu et d'essayer de trouver on va dire, des éléments qui permettent de fidéliser le salarié. Alors, j'ai eu récemment, par exemple, le cas d'une société qui participait à une enquête de salaire de manière récurrente et où je voyais, parce qu'on analyse aussi le turnover volontaire ou pas, et je voyais que systématiquement, les salaires étaient en dessous du marché et je ne voyais pas de turnover. Donc, J'ai interrogé la société alors qu'elle mettait à côté son système de rémunération que je trouvais tout à fait classique. Je me dis, mais enfin, comment vous faites pour ne pas avoir turnover? Vous êtes dans un endroit, enfin c'était à Toulouse, c'était un endroit où il y avait quand même on va dire une employabilité à côté, où il y avait des concurrents qui visiblement payaient mieux. Comment vous arrivez à fidéliser vos salariés? Il nous a répondu, effectivement, vous avez raison, c'est pas sur le fixe, c'est pas même sur le global, c'est pas sur les différents bénéfices qu'on devait mettre à côté. D'ailleurs, on le dit pratiquement aux salariés en interne, qu'ils sont non pas sous-payés, mais plutôt un peu en deçà de la médiane, plutôt au niveau du quartile inférieur. En revanche, on a mis en place tout un tas de choses qui sont à côté, qui sont, on va dire, qui sont pour le bien-être du salarié. Donc, vous avez mis par exemple une crèche d'entreprise à côté pour les femmes qui avaient des enfants, donc qui était gratuite pour les salariés, donc qui ne rentrait pas bien sûr dans la rémunération globale, mais c'était un avantage comme un autre. Et on essaye de différencier autant que faire se peut en s'adaptant à l'individu. C'est-à-dire qu'au niveau de la RH, on reste au niveau d'un système de rémunération qui est classique pour tout le monde, en respectant l'équité. En revanche, on va aménager, alors peut-être pas le temps de travail, mais on va essayer de trouver pratiquement un individu et ça va être toujours en binôme manager RH. Donc c'est ce qui fait que les gens savent effectivement qu'ailleurs ils gagneraient peut-être 5 ou 10% de plus, mais ils préfèrent rester chez nous parce que chez nous on parle même plus de rémunération globale mais de rétribution. Et à côté, enfin, c'est une entreprise où il fait bon vivre. Alors, il y a des dérives où il ne faut pas aller, bien évidemment, ce n'est pas non plus une entreprise qui paye à 30% en dessous du marché. Elle est quand même entre le quartile inférieur et le quartile supérieur, mais elle a un turnover qui est en deçà de la profession parce qu'ils ont trouvé un moyen de fidéliser et de ne pas uniquement baser sur la rémunération, ni sur le cash, ni sur le bénéfice. Et c'est en ça où aujourd'hui, le travail, on va dire, d'un company man ou d'un RH n'est plus uniquement que sur des coûts, mais sur aussi la vision, enfin la bonne connaissance de l'entreprise, la bonne connaissance de la stratégie de l'entreprise, des différents acteurs au sein de l'entreprise. Et c'est toujours un travail en concertation, en binôme avec les managers. Donc on sent que c'est là où sont les solutions. Et avec beaucoup de travail, comme le disait Nathalie, de communication, de prosélytisme, pour convaincre le manager, pour expliquer qu'on ira peut-être, et encore plus avec les syndicats, qu'on n'ira peut-être pas sur du cash, mais qu'on ira sur d'autres choses. Mais au fur et à mesure que les gens voient qu'il y a un vrai travail de fond, qu'il y a eu un travail de benchmark, on est sur des choses tout à fait concrètes, là, on peut rentrer dans le dialogue. Alors, une des nouveautés aussi, c'est que aujourd'hui, il y a des vrais outils qui existent sur le marché sur la rémunération. On n'est plus uniquement sur le Excel ou du tableur. Il y a des sociétés qui se sont implantées, et je ne suis pas là pour faire leur promotion, je n'ai pas d'action chez eux. Mais deux, trois acteurs du marché qui viennent de l'étranger et qui ont vraiment mis en place, qui adaptent à la France des logiciels de rémunération, mais de simulation de rémunération. Je pense à un notamment où les différentes enquêtes de rémunération, les résultats sont rentrés dans ce logiciel, donc ce qui permet de benchmarker à la fois l'individu, les différents salaires de la société par rapport à ces différentes enquêtes, et de faire des simulations avec des nuages de points et autres. Donc on voit cette société là en France depuis 3 ans, par exemple. Au début, ils étaient, on va dire, alors qu'ils existaient déjà dans d'autres pays, bon, il s'agit de Cézanne pour pas la nommer, mais c'est une société qui, il y a 3 ans, avait quelques clients français et qui aujourd'hui ont des clients de plus en plus grands parce qu'on se rend compte, notamment les entreprises qui ont des company bank, qu'il ne suffit pas d'avoir des équipes, il ne suffit pas d'avoir la disponibilité, même d'avoir des consultants à l'extérieur pour travailler. Il faut un logiciel de paye pour traiter la paye. Bon, ben pour la rémunération, il faut des choses qui soient on va dire aussi professionnelles. Or, en France, ça n'existait pas ou pratiquement pas. Donc, on a aujourd'hui quelques acteurs, et tant mieux, qui arrivent sur le marché avec des solutions, ben, toutes faites ou qu'elles adaptent, où justement on peut travailler à la fois aussi bien au niveau micro et au niveau macro rapidement les rémunérations. Donc, ça, c'est. On va dire que c'est une vraie nouveauté en France. C'est des logiciels qui existaient ailleurs, mais qui sont adaptés aussi à la spécificité française. Donc ça, c'est aussi une vraie nouveauté. Et on commence de plus en plus à voir les entreprises qui utilisent ce genre d'outils, qui se les approprient et qui même renvoie, parce que au démarrage, c'était plus ou moins une déclinaison, on va dire une transcription des logiciels étrangers en France, sans tenir compte de la spécificité française. Et puis, il y a un vrai travail maintenant de fond pour arriver à faire des vrais outils. Donc, on commence à avoir des vrais outils. Et c'est tant mieux. Encore une fois, il est venu à l'idée personne de faire de la paye sans avoir des logiciels de paye. Donc, maintenant, il y a des vrais outils sur le marché. Donc, on sent, ça veut dire que tout ce qui touche à la rémunération commence à avoir un ancrage au sein des sociétés, pas uniquement des grandes sociétés, et qu'on donne des outils pour travailler vraiment le sujet. Alors, je ne sais pas si toi-même, tu travailles encore sous Excel ou si tu peux avoir des
On a,
logiciels.
nous, chez nous, on a des DPJSI et on a tout ce qui va avec pas sur les enquêtes, sur les tableaux de bord.
Voilà, donc on
Mais
sent effectivement, il y a des structures qui se développent vraiment sur le sujet pour bien les connaître aussi par ailleurs. Ils ont une vraie réflexion, non pas uniquement sur la paye, mais sur la gestion des rémunérations, aussi bien au niveau macro que micro, voire même ils envisageaient il y a peu de temps, d'après leurs éléments, de pouvoir faire du BSI. Donc, ce qui n'était pas du tout dans l'objectif au démarrage de faire de la communication sur les rémunérations, ce n'était pas du tout ni leur objet, ni leur sujet. Donc on sent qu'il y a ce type on va dire, d'outils qui arrivent sur le marché qui permettent d'aider toutes les entreprises, quelles qu'elles sont. Et puis il y a le côté communication. Alors, ça n'est pas nouveau que on commence à communiquer sur la rémunération en France. Il y a des sociétés qui font des bilans sociaux individuels déjà depuis quelques temps. En revanche, vous verrez, il y a par rapport à cet outil des réactions relativement contrastées. On commence à avoir une maturité sur le sujet. Alors, quand on parle de communication, on se rend compte que dans l'enquête, notamment l'année dernière, c'était un des objets principaux de la personne qui travaillait sur la rémunération. C'était comment je vais pouvoir communiquer auprès de mes managers, auprès de la direction, auprès des salariés ou des partenaires sociaux ou des actionnaires. Je dois, avec la masse que j'ai, avec mon expertise, je dois communiquer auprès de tous ces gens-là et c'est à moi de le faire, en m'appuyant sur qui je peux, avec les outils que je peux avoir, mais c'est à moi de le faire. Et je le fais sachant que les services communication des entreprises se détache de ça avec un grand bonheur. On est intervenu il y a 2-3 ans, je peux le dire parce qu'il y a prescription pour une société qui s'appelle IBM, pour laquelle on a fait un bilan social individuel à l'ensemble de leurs salariés, donc 11 000, 11 000 salariés. Donc c'est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment chaque salarié reçoit un document qui à la fois reflète la vision de la rémunération de l'entreprise. Et c'est le côté chiffré, individuel, précis pour chaque salarié. C'est-à-dire que Monsieur Dupont va recevoir un document, on va lui dire ce qu'il a gagné en brut, en net, on va lui expliquer ses charges sociales, on va lui expliquer qu'est-ce qu'il a eu comme mutuelle, quel avantage il avait, qu'est-ce qu'il a eu comme ticket restaurant, où est-ce qu'il en est de son perco, s'il y a eu un intéressement, quel a été l'abondement, s'il a une voiture, quelle est la voiture. Donc, sur les 11 000 salariés, on avait bien sûr la personne qui n'avait pas de voiture, et puis jusqu'au dirigeant où on lui donnait aussi toutes ses notes de frais. Donc ça, c'est on va dire un outil qui est fait de manière récurrente. Donc les 11 000 salariés de l'IBM avaient le BSI. Mais pour en revenir à mon propos de départ, le service communication RH, ils ont un service de communication interne fort, a dit, oh, mais nous, on n'intervient pas là-dessus, on vous donne la charge graphique, et nous, la rémunération, c'est trop compliqué. Ou en tout cas, ce n'est pas le genre de sujet sur lequel on travaille, même si on travaille sur la com interne RH, parce que le côté fiscal, on ne va pas savoir, le côté juridique, le côté statistique, on ne sait pas trop comment faire. Donc, on vous laisse faire. Voilà la charte graphique, on les a vues au début, on a travaillé avec la RH, on ne les a plus revues. Ce n'est pas une remise en cause du tout de la communication, service communication de cette société. On a ça dans d'autres sociétés aussi. C'est que quand on arrive à travailler sur la communication, sur la rémunération, c'est tellement touchy, c'est tellement compliqué que même sur des services com, ils disent, oh ben, nous, c'est ça, on préfère vous le laisser, on préfère laisser ça à l'expert. Alors après, c'est la patate chaude et tout le monde se refuse ça gentiment. Et c'est en général le RH ou
Ouais, et
Compagne
puis
Ben qui récupère ça.
je trouve que c'est pas très simple de le gérer en interne, parce qu'il y a des aspects quand même très confidentiels, que si les partenaires sociaux découvrent que c'est le département com qui a géré le BSI avec accès potentiel au REM, on est quand même moyen. Donc moi, par expérience, j'ai toujours sous-traité ça à l'extérieur. Pour moi, s'il y a une coquille, ce sera, bon, je voudrais dire que c'est le prestataire. Et en l'occurrence, bon, ça évitera toute polémique. Mais c'est vrai qu'un BSI,
Oui.
alors c'est formidable, c'est vraiment un outil, un vecteur de communication formidable, parce que bien souvent les gens ignorent l'éventail de, comment dire, d'avantages dont ils bénéficient, ça arrive souvent. Alors, pour en avoir fait, en l'occurrence, il y a aussi des réactions inverses qui sont de dire, moi j'avais eu, je me souviens, un syndicat qui m'avait dit, mais vous faites de la propagande, ça peut être aussi perçu comme étant de la propagande. Mais c'est vrai que pour mettre en place un BSI, il faut quand même avoir des éléments vendables. Parce que si vous avez, comment dire, une politique de rémunération basique avec un salaire de base et puis tout, que le prérequis en matière de cotisation de retraite, couverture sociale, machin, c'est pas la peine de faire un BSI, quoi.
Alors,
C'est peine perdue.
Nathalie a raison, c'est-à-dire qu'on est dans